Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour cette coupure un peu autoritaire. C'est effectivement, je voyais qu'arrivait dans les questions pas mal de thématiques qu'on allait aborder juste après, ensemble, de manière assez pratique sur comment on fait dans les bibliothèques maintenant qu'on a parlé de tout ça. Et donc du coup, je ne sais pas si on pourra répondre à toutes vos questions, mais on pourra toujours repasser la parole à nos camarades de la table ronde d'avant s'il y a des choses qui peuvent être complétées. Donc l'idée de cette deuxième table ronde, c'était une fois qu'on a posé un peu toutes ces questions de droit d'auteur, des questions que ça pose dans l'industrie elle-même et la question du dépôt légal, de voir avec deux collègues très concrètement comment on fait. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, en fait, on va se le dire clairement, et qu'est-ce qu'on fait, et comment on le fait, pourquoi on le fait, et quelles sont les questions qu'on se pose tous ensemble, et quelles sont celles auxquelles on peut avoir une réponse, et ensuite une prise de décision derrière, qui n'est pas forcément la même pour tous et toutes. Donc avec moi, j'ai Sophie Agier-Carré. Bonjour Sophie, qui est responsable de la médiathèque des Fontenelles et du projet Troisième lieu du Parc Sud de Nanterre et qui a été organisatrice du festival de jeux vidéo Sergiplay pendant 7 ans.
C'est exactement ça. Bonjour, bonjour Émilie et bonjour à toute la salle.
Je prends quand même mon anti-sèche parce que l'émotion parfois... et à ma droite, Karim Derouazi, qui est responsable de l'espace jeux vidéo de la médiathèque de Nancy, qui fait aussi de l'événementiel autour du jeu vidéo. Bonjour Karim.
Oui, bonjour Émilie, bonjour toute la salle et à tous ceux qui sont sur Facebook. Oui, c'est bien ça. Donc à Nancy, on a un bel espace jeux vidéo et on fait pas mal d'animations autour de ce support.
Eh bien justement, je pense que pour que nos collègues aient un peu une idée plus précise de ce qu'on peut proposer en bibliothèque, on va parler de ce que vous proposez dans vos établissements ou que vous avez pu déjà connaître dans des précédents établissements éventuellement. Je ne sais pas qui veut commencer. On peut aborder largement, forcément on va parler de qu'est-ce qu'on met en consultation sur place, s'il y en a. Est-ce que vous avez du prêt? Est-ce que ce prêt, c'est du prêt de jeu? Est-ce que c'est du prêt de console? Et puis on va parler de comment ça se passe très concrètement. Alors on va aller dans un niveau de détail qui nous semblera nous utile, mais on sait que dans les commentaires et dans les questions vous aurez certainement pas mal de questions techniques, parce que c'est souvent le cas quand on aborde ces sujets. On verra si je prends ça au fil de l'eau ou à la fin. Alors qui veut commencer entre vous deux?
Écoutez, je prends la parole.
Et je t'en prie.
Pour commencer, je vais présenter un peu notre espace à Nancy. Donc, quelques visuels pour vous présenter. Donc, ça, c'est l'entrée de l'espace jeux vidéo. On a un espace d'environ 100 mètres carrés. On a ouvert en 2016. D'ailleurs, à l'époque, il me semble que c'était un des plus grands espaces dans une médiathèque consacrée aux jeux vidéo. Dans cet espace, on a mis différents matériels. Donc, on commence par une borne arcade à l'entrée. Si on continue, donc l'espace est tout en longueur. On a plusieurs boxes dans lesquelles est installée différentes consoles, différents matériels. Si on peut voir la photo suivante, voilà. Donc là, on a tout un public d'ados qui sont autour d'une box. Sur la suivante, on voit qu'on a également des casques de réalité virtuelle. On a un siège baquet également.
Que je leur envie beaucoup.
Ouais, moi aussi.
En effet, il fait fureur. Hein. Et puis, on a un espace debout où là, on exploite tout ce qui est caméra de détection de mouvement. Donc là, pareil, un groupe d'ados qui se donne un célèbre jeu de danse. Et pour terminer, on a aussi un espace gamer. Un espace gamer dont l'accès est réservé aux adultes. L'idée est de pas faire de cet espace un espace jeunesse bis, mais vraiment un espace ouvert à tous. Et c'est pour ça qu'on a réservé cet espace gamer aux adultes, notamment pour parce qu'on peut pas contrôler tout ce qui se dit sur Internet, d'une part, et d'autre part, on a pas mal de PEGI 18 qui sont exploités sur ce matériel-là. À côté donc de cette proposition de consultation sur place, on prête aussi des jeux. Voilà. Pour l'instant, on ne fait pas de prêt de console. Voilà pour ce qui est de la médiathèque de Nancy et son espace jeux vidéo.
Et moi, du coup, je vais vous parler du réseau de médiathèques où j'étais avant et où je suis actuellement. Donc, j'étais à Cergy pendant 7 ans. Et quand je suis arrivée dans le réseau des médiathèques, on commençait à faire du jeu vidéo plutôt côté événementiel avec donc Cergy Play, dont on a fait la 10e édition l'année dernière. On a mis en place des espaces jeux vidéo dans chaque médiathèque. Donc, c'était des petits espaces avec une console. Une sélection de jeux et les usagers qui souhaitaient jouer s'inscrivaient auprès des bibliothécaires. Donc on avait fait le choix aussi parce qu'on était contraint par l'espace de intégrer vraiment les espaces jeux vidéo au sein de la médiathèque, donc de pas mettre une salle dédiée, que ça soit visible pour tout le monde. Donc avec des contraintes différentes selon les trois médiathèques. Et là aujourd'hui, je suis dans le réseau des médiathèques de Nanterre et on propose du jeu vidéo dans 2 médiathèques sur les 5 que nous avons. Et pour une, on a une salle jeu vidéo dédiée qui est une salle qui est un petit espace à côté de la salle numérique. Donc c'est les collègues qui sont chargés de la salle numérique qui surveillent l'espace jeu vidéo. Et on a une autre médiathèque qui elle propose du jeu vidéo directement dans ces espaces. Donc voilà, on est vraiment sur une offre de jeux sur place et on prête des jeux vidéo à Cergy depuis l'année dernière. Pas de prêt de console, que du prêt de jeux et à Nanterre, pas de prêt de jeux ni de console, mais beaucoup d'événementiels.
Et du coup, très concrètement, le prêt, pour rentrer un tout petit peu dans les détails pratiques, si ce n'est technique, comment ça se passe avec vos usagers ? Enfin, comment vous prêtez, en fait, très concrètement ?
Alors pour Cergy, le prêt se fait comme tous les autres supports. Les jeux sont catalogués, ils sont exemplarisés. Sachant qu'on est aussi dans un réseau. Enfin, Cergy est dans un réseau de 14 bibliothèques. Donc il y a un gros travail qui est fait sur le jeu vidéo depuis longtemps sur ce réseau. Donc les jeux vidéo sont prêtés comme ça. Je crois pas qu'il y ait de limite dans le nombre de jeux vidéo qu'on peut emprunter, mais je ferai la vérification. C'est prêté normalement et ça a été négocié en fait avec notre collectivité. Et moi je suis arrivée à Cergy donc en 2011. Et 2021, on a pu prêter des jeux. C'était un des objectifs qu'on m'avait fixé quand je suis arrivée. J'ai œuvré tout le temps où j'y étais, mais ça s'est concrétisé peu de temps après. Et on s'est servi, en fait, alors j'avance peut-être un peu, mais...
Oui, on en reparlera des relations avec la collectivité sur ces sujets après. Ouais.
C'est ça. Mais du coup, c'est l'événementiel qui nous a permis en fait, de montrer l'importance du jeu vidéo dans les médiathèques aujourd'hui et qui a permis, avec des chiffres de fréquentation importants, de dire, ça serait vraiment bien qu'on puisse prêter du jeu vidéo. Et mais c'est un travail de longue haleine.
Karim, à Nancy, comment ça
Alors,
se passe ?
Pour ce qui est de Nancy, pareil, c'est le prêt comme tous les autres supports. Il est limité à 28 jours. Par contre, nous, on limite le nombre de jeux prêtables. À l'ouverture, on a limité à un jeu par carte. Notre crainte, c'était qu'on se fasse dévaliser et qu'en 15 jours, on n'ait plus rien à proposer aux gens. Et on a bien fait, parce que en fait, ça marche très très bien. Il y a quelques temps de ça, on est passé à 2 jeux maintenant, parce que notre fonds a grandi. Mais malgré ça, même si le fonds a grandi, on a des jeux sur certaines consoles, comme la Switch, pour ne pas la nommer, où on a bien quelque chose pas loin de 200 jeux, si je ne dis pas de bêtises. Et pourtant, en rayon, si on arrive à en trouver une quinzaine, c'est bien.
Ah oui. Donc je viens de vérifier ces 2 jeux vidéo par carte.
Quelle efficacité.
On vérifie tout de suite.
Oui. On a vu juste avant, notamment à Nancy, et tu en as parlé, je crois. Tu en as parlé forcément des PC gamers. La question était en proposer vous, oui. Sophie, je ne sais plus si tu en as parlé, toi, des PC gamers.
Alors, non, j'en ai pas parlé. On n'en propose pas. Alors, il y a eu, en fait, dans le bâtiment, la médiathèque que je dirigeais occupait, il y avait une salle avec des ordinateurs, mais qui n'était pas gérée par la médiathèque, qui était gérée par le pôle numérique du bâtiment lui-même. Et c'était des PC gamers. Et ce qui était proposé, c'était plutôt une utilisation pendant des ateliers. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu d'utilisation en libre. C'était plutôt des jeux indés qui étaient proposés, mais pas pilotés par la médiathèque, donc pas de regard dessus.
Et justement, on, tout à l'heure a été posé une question sur les comptes et sur, et en tout cas a été évoqué Steam, parce que je crois qu'en fait, pour avoir discuté avec beaucoup de collègues dans plein de colloques, matinées d'études et échanges divers et variés, j'ai l'impression qu'on est quand même très très, enfin moi je ne sais pas encore, mais comme vous avez entendu, bientôt on aura des PC gamers, donc on se pose activement la question, mais j'ai l'impression qu'effectivement beaucoup de nos collègues utilisent Steam. Et alors moi justement quand on a préparé cette table ronde, je vous avais demandé qu'est-ce que vous utilisiez, parce que je me souvenais d'échanges avec des collègues qui m'expliquaient, alors c'était intéressant que du coup Élodie évoque le compte café, parce que justement eux m'expliquaient qu'ils avaient essayé de contacter Steam pour leur dire, pour leur parler de leur projet et leur dire, bah voilà, est-ce que vous avez une offre, pas bibliothèque, mais en tout cas institution, établissement public, que sais-je, comment la nommer, mais, ou est-ce que ça vous intéresserait d'en construire une, parce que nous on est intéressés, mais il y a plein d'autres collègues qui sont intéressés en fait. Et la réponse qu'ils avaient eue avait été, ah bah non. Donc du coup, bah, comment on fait pour être le moins, comment dire, le plus fair, le plus juste possible? Et on leur avait recommandé d'installer un compte, au moins un compte par... donc c'est des comptes particuliers, hein, qu'ils utilisaient, en tout cas à l'époque, ils ont peut-être changé depuis. Mais c'était un compte particulier par PC pour éviter, pour au moins, voilà, qu'il n'y ait pas un compte pour toute la bibliothèque. Alors, bon, c'était plus anecdotique qu'autre chose, je crois qu'il y avait 4 postes. Mais voilà, c'était la réponse qu'ils avaient eue à l'époque. Donc du coup, je sais qu'on en a parlé, parce que Karim, tu me disais que je crois que vous, c'est pareil, mais il y a aussi des détails techniques là-dessous, sur ce choix-là aussi.
Oui, en effet, donc nous, on a donc des PC gamers, 4 qui sont accessibles au public. Et en effet, donc on passe par Steam, mais pas que. Et en fait, on a un compte par PC. Pas forcément pour répondre aux exigences de ces grosses plateformes de téléchargement, mais aussi pour des problèmes techniques, parce que à la médiathèque, on organise aussi des tournois, et que si on n'a pas un compte par PC, et ben l'organisation est un peu compliquée.
Et vous, vous n'aviez pas du tout, du coup, essayé de contacter Steam?
Alors, je sais qu'au début, on avait essayé de contacter Steam et on n'avait pas eu de réponse ferme. Donc, je crois que pendant un an, on a eu un compte Steam sur quelques postes dans la salle numérique dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, je crois que l'expérience n'était pas phénoménale, et c'était une salle qui était assez difficile à exploiter puisque il y avait des besoins sur des ateliers informatiques, les jeux vidéo. Enfin, il y avait beaucoup de pratiques qui se croisaient, et la priorité a été donnée du coup plutôt sur l'accompagnement en numérique plutôt que sur le jeu vidéo, et l'offre de jeux vidéo était une offre très très maison, on va dire.
Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Non, j'ai vu ta tête se tourner, c'est pour ça que je voulais pas te couper la parole. oui, du coup, ça a été aussi. Je sais plus si on en a parlé dans la table ronde d'avant, mais nous, on s'est beaucoup parlé pendant nos échanges de cette question de l'offre légale à droit négocié, parce que bon, maintenant on a posé. On a posé le fait que oui, en bibliothèque, il y a du jeu vidéo, oui, on fait du prêt et de la consultation sur place. On va se le dire tout de suite avant de continuer cette table ronde. La notion de flou juridique est une notion qui est bien pratique pour nous. En réalité, si on s'en tient strictement aux droits d'auteur et que on lit les différentes publications professionnelles à ce sujet, je pense notamment au rapport Legendre de 2015, mais pas uniquement, il y a eu beaucoup de publications à ce sujet de collègues qui ont l'habitude de pratiquer le jeu vidéo et qui ont beaucoup travaillé sur ces questions. En réalité, donc certes, il y a encore, bien sûr, il y a un cadre qui n'est pas défini, mais du coup, dans cette attente de cadre, en réalité, ce qu'on propose en bibliothèque n'est pas légal, clairement. Donc c'est la base de notre table ronde, puisque la question, c'est, on le sait, que ce n'est, si on s'en tient strictement aux exigences du droit d'auteur, ce qu'on fait, malgré toute notre bonne volonté, malgré tout ce qu'on essaye de faire, et on va discuter de comment justement ce qu'on fait n'est pas réellement légal. Du coup, la question c'est comment on le fait et pourquoi on le fait. Et donc la question qui vient juste après, c'est mais pourquoi du coup ne pas essayer, parce qu'il y a des entreprises qui proposent une offre qu'on appelle à droit négocié, alors notamment pour le prêt, la question serait de reverser une partie de l'argent pour les droits d'auteur et pour s'acquitter du droit d'auteur pour pouvoir prêter en bibliothèque, comme c'est le cas du droit de prêt pour les livres. Il en existe un petit peu pour les jeux vidéo. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Et pourquoi? Parce que je connais la réponse, moi.
Si tu permets.
Je t'en prie, bien sûr.
Alors, le droit du prêt, le droit de la diffusion, etc., c'est un problème qui s'est posé sur tous les supports en bibliothèque. Hein, d'accord? Ça a commencé par le livre, et le livre, ça y est, hein, c'est, tout est réglé là-dessus. Hein, et encore, parce que jusqu'à récemment, l'heure du compte, d'accord, était entre guillemets toléré, hein, comme ce qu'on fait en ce moment en jeu vidéo. Et il n'y a que récemment où le législateur a pris position, et puis là on peut visiblement raconter des histoires. Ensuite on a eu le problème avec le DVD, là aussi le problème est un peu réglé. Il y a eu le CD. Là, le flou est toujours le même.
Qui est notre parent jeu vidéo. Ouais.
C'est ça.
Et en termes de droit En termes de droit de diffusion, pour le CD, on a la SACEM.
Mais
pour le droit de prêt, on en est toujours dans la même situation.
Tout à fait. D'ailleurs, avec les évolutions, si ça se trouve, le CD aura disparu avant qu'on règle le problème.
Comme tu es optimiste, ouais. Karim.
Et puis donc maintenant, voilà que le jeu vidéo arrive en bibliothèque, médiathèque, et on est confronté au même problème. Ceci dit, moi je pense que les éditeurs ne sont pas complètement fermés à ce genre de procédure. La preuve en est, c'est que Ubisoft, je ne sais pas si tu en as entendu parler, là, le 22 septembre, donc c'est tout récent, il propose de télécharger des jeux en médiathèque et donc tout l'espace culturel gratuitement. Et donc c'est mis à disposition.
Ils nous ont contactés en début d'année pour nous le proposer, oui. Mais je pense qu'on ne sera pas les seuls.
Donc voilà. Donc je pense qu'on se fait toute une histoire par rapport à ces droits de prêt et ces droits de diffusion. Mais comme il a été dit dans la table ronde précédente, ensuite, ces droits, à qui ils sont versés? On ne sait pas encore si c'est aux éditeurs, si c'est aux designers qui ont participé, etc. Et donc, du coup, je pense que ça va être une avalanche de questions et de problèmes. Et je pense qu'ils ne veulent pas mettre le doigt dans cet engrenage, les éditeurs.
Moi, je crois que c'était ce qui était évoqué dans la table ronde d'avant. Effectivement, c'est une situation, on va dire, plutôt qu'un problème qui est bien connu, bien identifié. Enfin, les éditeurs savent parfaitement, en tout cas. Je prétends pas que le PDG de Nintendo sait ce qu'on fait, mais si on parlait d'Ubisoft, on a, je pense, pour beaucoup des relations, si ce n'est fréquentes, au moins régulières avec eux. Donc, ils sont parfaitement au courant de ce qu'on fait. Éventuellement, ils nous encouragent, ils nous envoient des jeux, ils nous aident, ils nous conseillent. Donc voilà, c'est une situation qui est connue, qui est tolérée, à défaut d'être légale. Et donc, je crois que le constat qu'on va partager avec la table ronde d'avant aussi, c'est qu'il n'y a certainement pas une grande volonté, pour l'instant en tout cas, de proposer des choses spécifiques pour les bibliothèques. On en reparlera tout de suite après. J'enchaîne sur la question sur... La création de projets, justement, que vous avez pu connaître tous les deux. On va poser cette question tout de suite. Quelle est la réaction des collectivités quand qui ne sont pas forcément au courant de cette situation? Quelle est leur réaction quand on leur explique ce cadre légal et comment on peut convaincre sa collectivité d'accepter de monter une offre jeux vidéo et à quels arguments ils se rendent?
Alors moi, du coup, si tu permets, je vais répondre. Et ben nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a mis 10 ans à faire valider une offre de prêt. Ce qui nous a permis de convaincre la collectivité, c'est à la fois d'avoir acquis une certaine légitimité par rapport aux actions jeux vidéo qu'on pouvait proposer, puisque sur Sergi Play, on pouvait avoir sur 15 jours de festival à peu près 1000 usagers qui pouvaient fréquenter les différents événements. Donc tout ça, c'est des usagers qui sont plutôt des habitants de la ville, qui du coup fréquentent ou pas les médiathèques toute l'année, mais en tout cas voilà, il y avait des attentes. Moi, chez Sergi Play, donc c'est en novembre, à peu près en janvier, on nous demandait: alors, qu'est-ce que vous faites pour l'année prochaine? Est-ce que vous faites revenir tel ou tel intervenant? Enfin voilà, il y avait vraiment cette d'acquérir la légitimité par le terrain. Et en même temps, de pouvoir montrer, parce que ce qui a été dit un petit peu tout à l'heure, c'est que de reconnaître que l'offre, que prêter, c'est pas légal, qu'on n'a pas de base solide, mais que les éditeurs sont au courant et que du coup c'est toléré. Et montrer aussi que ça permet de proposer du jeu vidéo, de diffuser un média auquel tout le monde n'a pas forcément accès, et qu'on est dans notre rôle en tant que bibliothécaire de faire de la médiation sur un support. Donc en fait, c'est vraiment ça. Nous, en tout cas pour Sergi, et je sais que pour Nanterre, on est un peu dans cette idée-là aussi de prêter des jeux. C'est vraiment je vais dire prouver, mais c'est pas vraiment ça, mais de dire que on va proposer cette offre-là, et on sait que ça va marcher, on sait que le public va adhérer, et que potentiellement ça va nous faire gagner des usagers, gagner plein de choses, et que la collectivité a tout intérêt en fait à valider ce projet. Et après, on dit qu'on a des CD, que du coup le droit de prêt n'existe pas pour les CD. Généralement, c'est un peu le dernier argument qui fait ok, on a des CD, on va faire des jeux vidéo aussi. On va prêter des jeux vidéo, pardon.
Pour ce qui est de Nancy, en fait, on a eu la chance de ne pas être les premiers à se lancer dans ce projet-là. Quand je dis on a eu de la chance, c'est parce que ça veut dire que d'autres ont essuyé les plâtres, d'autres se sont lancés, et les résultats étaient satisfaisants, très positifs. Donc du coup, les arguments, ils sont multiples. Le jeu vidéo, ça fait partie de la culture. Notre boulot, c'est de promouvoir la culture. On avait aussi l'objectif de toucher un public qui fuit les médiathèques, qui sont les adolescents. Et comme vous avez pu voir sur les photos qu'on a montrées au début, le public adolescent, il est au rendez-vous. Le nombre d'inscriptions des ados a augmenté et monté en flèche lorsqu'on a ouvert l'espace jeu vidéo. Et puis, il y a aussi les autres supports, comme tu as dit, le CD, qui posait le même problème et qui est là dans les médiathèques depuis des années, et que finalement ça roule. Donc les médiathèques se modernisent, la technologie avance, et il ne faut pas rater le train. Voilà, donc on est monté dedans.
Oui, c'est ce que tu me disais quand on a échangé. Au bout d'un moment, il faut faire pour que ça bouge, en fait. Il y a une question qui m'est parvenue.
D'ailleurs, je t'en prie. Il y a une citation que j'aime beaucoup, qui s'applique à notre cas, c'est... Si on veut faire évoluer les choses, il vaut mieux demander pardon que permission.
J'aime beaucoup.
Oui. Bon, demander pardon à nos tutelles, c'est pas forcément la meilleure position dans laquelle on peut se trouver non plus. Donc, je vous laisse seul juge. Il y a une question qui m'est parvenue par Facebook, et qui me fait penser que finalement, j'ai pas posé la question juste avant. Donc, la question de notre collègue est: comme ce n'est pas légal, pourquoi acheter nos jeux sur un site comme RDM beaucoup plus cher plutôt qu'en grande surface ou magasin spécialisé? Ce qui m'amène à la question que je n'ai pas posée sur l'offre légale à droit négocié, puisqu'il en est existe un petit peu pour les jeux vidéo, donc ces droits négociés qui reverseraient, donc qui s'acquitteraient d'un droit de prêt. En fait, est-ce que vous êtes tourné vers cette offre-là, et pourquoi? En fait, je pense que j'ai posé cette question et finalement, il n'y a pas tellement répondu.
Alors, sur l'offre légale à droits négociés, en fait, si on est dans une création de fonds jeux vidéo, on va avoir un seuil. Et en fait, dès l'instant où on va avoir le seuil des marchés, en fait, on va se retrouver un peu coincé avec ces quelques fournisseurs qui sont là, qui normalement devraient pouvoir, s'ils ont négocié les droits, nous fournir une preuve que ces droits ont été négociés. Moi, j'ai jamais vu ce genre de document, et en préparant la table ronde, c'est assez commun. Donc en fait, on se questionne un peu sur cette offre à droit négocié. On sait aussi que l'offre est pas forcément, enfin on trouve pas forcément tout ce qu'on voudrait proposer à nos usagers, et on a d'autres offres légales qui sont très limitées en fait en termes de jeu, en termes de support. Et choix est fait, si on peut passer par la Fnac ou autre, enfin voilà, je fais pas la promotion de la Fnac, mais c'est quand même assez pratique, ou des revendeurs de jeux spécialisés, c'est quand même plus simple, parce qu'en fait on ne voit pas, en tout cas je parle là en mon nom, moi je vois pas de plus-value entre l'offre légale à droit négocié et une offre dans un magasin de jeux vidéo classique.
Karim, je crois que tu étais assez d'accord quand on a échangé là-dessus.
Ouais, je rejoins ma collègue, en effet les catalogues de ces fournisseurs sont très pauvres. D'accord. Les prix sont excessifs à mon avis. Et puis en effet, dans mes recherches, personne n'a réussi à avoir une preuve que ces droits étaient vraiment négociés. Voilà.
Donc j'espère que ça répond à la question. On a évoqué l'événementiel. Tous les deux, vous êtes ou vous avez été organisateur d'événements jeux vidéo dans vos établissements. Est-ce que vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce que vous pouvez plus détailler sur ce que vous avez pu faire comme événement, animation, et puis ça va nous amener tout un tas de questions, bien sûr.
Alors, la question s'est posée quand on a ouvert notre espace jeux vidéo, si il fallait en soi faire une action culturelle, des animations autour de jeux vidéo, parce que en soi, l'espace jeux vidéo, il est en animation tous les jours. Et puis, on s'est dit que oui, ça serait intéressant, parce que ces animations vont nous permettre de toucher un public qui ne vient pas forcément aux médiathèques, d'une part, et d'autre part, de faire un lien avec les autres supports, le livre, le CD, la vidéo, etc. Donc, on s'est lancé, une fois par mois, au moins, dans le fait de faire des animations, autour du jeu vidéo. Alors, après... on a vraiment fait un peu tout, aussi bien des conférences que des tests de jeux, que des tournois, que des expos. Je fais un petit peu le tour. Et puis, je vais vous présenter après peut-être quelques-unes de nos animations en images, dont une qui est chère à
votre
mon cœur.
Votre petite fierté à Nancy, et on comprend pourquoi, vous verrez.
Et du coup, que ce soit sur Cergy, comme j'en ai parlé, donc on a le festival Cergy Play, donc qui se déroule donc en novembre et qui dure 15 jours, qui est vraiment l'idée de mettre les jeux vidéo à l'honneur dans les médiathèques. Donc ça passe par comme l'a dit Karim, des conférences, des rencontres, on fait une soirée qui tourne chaque année dans une médiathèque. Donc on a pu faire par exemple des tournois aussi de FIFA. Enfin, on a vraiment essayer de mettre à l'honneur le jeu vidéo pendant ces 15 jours-là. Et toute l'année, on propose des temps de jeu aussi. Donc il y a les espaces jeux vidéo, donc avec une sélection de jeux qui changent selon la médiathèque dans laquelle vous trouvez. On a aussi fait un moment un club ado club ado jeux vidéo. Où on proposait aux ados de venir jouer et discuter avec nous. Donc l'objectif, c'était aussi d'avoir des idées un peu, savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient attendre de nous, médiathécaires, sur le jeu vidéo. Donc c'était très très intéressant comme échange. L'objectif, c'était vraiment de dresser, de proposer le plus d'animations possible sur le jeu vidéo, et aussi de faire des parallèles, comme tu disais Karim, sur les autres supports, sur par exemple les livres Assassin's Creed, Assassin's Creed et The Witcher, pardon, je suis là-dedans aussi. C'était vraiment faire le lien entre tout ça et asseoir le jeu vidéo dans une offre globale d'action culturelle.
Karim, si tu veux, on va montrer quelques-uns de vos événements, et puis ensuite je vous bombarderai de questions sur où vous pouvez en parler en présentant vos différents événements. Comment on gère la question est toute simple, comment on gère la question des droits, quelles questions on se pose quand on organise ce type d'événement, parce que c'est encore différent de là, on est hors du droit de prêt, c'est encore autre chose, et quelles questions on se pose pour en tout cas essayer d'avoir des bonnes pratiques, même si on n'y répond pas forcément. Donc si on peut avoir l'image. Merci beaucoup.
Donc on a commencé à faire, comme je vous ai dit, pour toucher d'autres publics, un peu du hors les murs aussi. Là, en l'occurrence, c'est un casque de réalité virtuelle. Le HTC Vive, hein, pour pas le nommer, aussi bien dans un centre commercial ou alors directement en restaurant universitaire. Donc voilà, pour toucher un public qui vient pas forcément à la médiathèque. On a également ensuite fait des animations à la médiathèque. Voilà, notamment sur le thème de Halloween. Alors voilà la super affiche qu'on a pu préparer. Donc pour cet événement-là, on a fait intervenir une maquilleuse. Donc une maquilleuse qui est venue maquiller. On va voir si on y arrive. On n'a pas l'image en photo, mais c'est pas grave. On voit l'essentiel. Donc une maquilleuse qui est venue déguiser les participants. Voilà, super. Ça, c'est un bruit qu'on n'aime pas trop.
On ne travaille pas beaucoup sur Mac en bibliothèque, donc c'est pour ça. Hop, voilà.
Donc voilà, on a aussi ouvert un bar sans alcool avec des gens qui venaient déguisés. Donc un DJ qui a pu ambiancer le hall de la médiathèque, et avec ça bien sûr des jeux vidéo sur le thème de l'horreur et de jeux un petit peu sanglants.
Et j'enchaîne avec votre fierté
allons-y.
Alors vas-y, tease donc, pendant que je
alors, fais... Et donc un des plus beaux projets, ça a été le Ciné Gaming Orchestra. C'est un projet qui a fait collaborer plusieurs structures culturelles de Nancy, donc un cinéma et l'Opéra de Nancy. La demande, c'était de trouver un lien entre tous ces lieux culturels pour organiser un grand événement. Donc ce grand événement, on l'a mis en place, et donc c'est le Ciné Gaming Orchestra. Vous allez voir l'affiche. On y est presque.
C'était celle-là.
Ouais, c'est celle-là. Donc voilà, donc le Ciné Gaming Orchestra, pareil, hein, pour les questions qui se sont posées, hein, pour les images, est-ce qu'on pouvait utiliser l'image des jeux, etc. etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas, de toute façon, ce sont des logos qu'on retrouve dans la presse, donc on les a utilisés. Ensuite, on a ce projet-là, c'est l'organisation de 4 tournois. Le premier, a été organisé dans une salle de cinéma, une grande salle de cinéma de Nancy. Voilà. Hop, là, voilà. Donc, vous voyez, donc retransmis sur grand écran, avec les joueurs dans une salle qui est juste à côté. Non, ça, c'est... Non, on n'y est pas. Je crois que les photos sont dans le désordre. Non. Voilà, donc on l'a. Donc voilà, les gamers étaient dans une salle à côté, hein, avec, comme vous l'ai dit, chaque PC gamer avec un compte Steam. Et donc on a fait 3 autres tournois à la médiathèque. Un tournoi de baston, Street Fighter pour pas le nommer. Et on a eu d'ailleurs la chance à ce tournoi d'avoir notre maire qui est venu participer. Donc,
il a l'air convaincu.
Ah oui, il était à fond. Bon, il a perdu. Et puis, l'intérêt donc, de tous ces tournois, c'est d'avoir des vainqueurs. Et les vainqueurs de ces tournois... Ah oui, tiens, je voulais vous montrer aussi un des tournois. Plus bas. Je crois que c'est Marco.
Celui-là ?
Ouais, celui-là.
Oh, non, c'est pas ça.
Non, on va y arriver.
c'était celui-là.
Oui. Voilà, cette photo-là. Là, cette photo, elle est intéressante parce qu'en fait, on voit que les participants, c'est vraiment de l'intergénérationnel. On a un gamin qui joue avec une personne adulte d'une quarantaine d'années. Donc ce média, vraiment, il réunit et il fait le pont entre tous les âges.
Et enfin,
donc, les gagnants de chaque tournoi a pu participer donc, à l'opéra, à une mise en situation. C'est-à-dire que chaque joueur pouvait jouer à des jeux diffusés sur grand écran avec l'orchestre symphonique qui jouait la musique du jeu. Donc là, vous avez des images, mais peut-être qu'on pourrait passer des vidéos qui seront un petit peu plus parlantes. Ouais, vous m'excuserez pour la qualité. On a donc là Lara Croft. L'orchestre. Et là, c'est Mario. Très intéressant sur la vidéo de Mario. Ah, elle ne veut pas se lancer.
Non, mais c'est moi qui maîtrise très mal la chose. Désolé, hein, vraiment. J'arrive pas à voir. Voilà, c'est ça. Hop, merci. J'arrivais pas à ouvrir tout en bas. Merci beaucoup. C'est la petite barre en bas que j'arrivais pas à ouvrir.
Donc voilà, l'idée, l'attente plutôt de l'opéra, c'était pour eux de toucher un nouveau public, d'accord ? Et on n'était pas sûr que ça fonctionne, hein, je vous avouerai. Et 3 semaines avant, on n'avait pas énormément de réservations. Et une semaine avant, en fait, c'est le public un petit peu étudiant, ado, qui se décide à la dernière minute, et bien on a fait salle comble. L'opéra a été rempli, ça a été une grosse réussite. C'était vraiment un moment grandiose.
Et alors, du coup, quelles questions vous vous êtes posées pour organiser tout ça ? Parce que alors là, on a le jeu vidéo, il y a la question de la musique, bien sûr. Donc là, tu nous as fait la présentation du Ciné Gaming Orchestra, mais vous avez fait aussi d'autres événements. Je pense à l'événement la conférence interactive avec Random Bazar, qui viennent aussi ce soir d'ailleurs dans le cadre de Press Start. Et je crois que c'est toi, Sophie, qui m'avais parlé de Fantasy Breath 5, un spectacle concert. Est-ce que vous pouvez du coup parler des questions que vous vous êtes posées en termes de justement de respect du droit?
Ouais. Et ben pour ce concert, en fait, comme on était parti sur on savait que c'était un concert de musique. Du coup, la question du droit s'est même pas posée. On a fait une déclaration à la SACEM, tout simplement. Mais comme on aurait pu le faire pour n'importe quel autre concert. Donc là, on n'est pas rentré par la spécificité jeux vidéo, mais vraiment par la spécificité musique. Donc voilà, c'était notre service juridique qui nous accompagnait là-dessus. Donc voilà, on se posait ces questions-là parce que c'était de la musique diffusée dans l'espace de la médiathèque. Après, sur les autres événements qu'on a pu organiser où il y avait la diffusion de musique ou autre, on s'est pas posé de questions, en fait on l'a fait comme on a pu le dire sur toute cette table ronde, on a fait Et ça s'est très bien passé. Enfin, voilà, on savait en fait qu'à un moment, il fallait qu'on contacte les éditeurs. Donc, je sais qu'on l'a fait au tout début. On a fait des mails pour dire, bah, voilà, on voudrait utiliser tel jeu pour telle animation, enfin, voilà, mettre tel jeu à disposition. On n'a jamais eu de réponse. Donc, en fait, on a considéré qu'on avait fait notre part. On avait informé qu'on voulait faire ça, qu'on se tenait prêt à échanger sur le côté légal, sur le voilà, même payer des droits s'il y avait besoin. Mais comme on n'a pas eu de retour, bah voilà, on a pris la responsabilité en prévenant évidemment notre service juridique et notre hiérarchie pour être couvert en cas de besoin. Mais voilà, on n'a jamais eu de mauvais retour là-dessus.
Et puis une des astuces entre guillemets qu'on a utilisées à Nancy, c'est que tous ces tournois-là, en fait, étaient organisés en collaboration avec des associations, hein, des associations de rétro gaming, des associations qui promeuvent le jeu de baston, etc., etc. Donc, c'était un peu du clé en main. Donc, nous, on leur commander une prestation et eux ils faisaient la prestation, donc à eux ensuite de se mettre en règle avec la législation. Voilà. Et pour ce qui est de la musique, en effet, on est passé par l'association MO5 qui à l'opéra, qui a ramené des partitions etc. pour les musiciens et qui se sont mis en règle avec la SACEM.
Et alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure pour la question d'affiche. C'est vrai que dans notre échange de préparation de cette table ronde, la question des visuels est revenue assez souvent. Vous m'avez beaucoup parlé, dès qu'on parlait droit, des visuels, des affiches, etc. La table ronde avant a évoqué les press kits. Et effectivement, c'était une des questions que je voulais poser parce que moi, dans le cadre de Press Start, je me souviens l'année dernière notamment, pour tous les visuels qu'on voulait utiliser de jeux vidéo, en fait, on a essayé de chercher. Enfin, d'abord, j'ai essayé avec mes petits bras de contacter les éditeurs, mais ça allait de la petite maison d'édition de jeux vidéo indépendante française aux grosses maisons américaines. Certaines ont sur leur site des. On parlait de conditions d'utilisation tout à l'heure, des règles de fair use, a priori, ça rentrait dans le cadre, puisque pas d'utilisation commerciale, pas de promotion, pas de déformation, ça c'est normal. Mais justement, on reviendra sur cette idée de non commercial de nos propositions. Mais voilà, et donc en fait, pour être très clair, aucune ne m'a répondu. Même les petites maisons indépendantes françaises qu'on penserait plus accessibles, même dont certains ont pu être nos intervenants, partenaires, voilà. Parce qu'en fait, je pense qu'ils s'en fichent. Enfin, à partir du moment où on a un usage qui n'est pas, qui est juste de l'illustration, on cite bien sûr d'où ça vient. Et je pense que pour eux, ça n'a aucune incidence. Et dans mes recherches, j'étais tombée sur un site qui répertoriait des press kits. Alors bien sûr, ça marche quand il y a un press kit, donc ça marche pour les gros jeux, mais pour les petits jeux, c'est moins souvent le cas. Est-ce que vous en utilisez et quelles questions ça peut vous poser? Parce que moi, je sais que je m'étais quand même interrogée sur le site en lui-même qui répertoriait tous ces press kits, parce que mine de rien, je ne savais pas trop d'où ils sortaient ces press kits-là. Alors, ils avaient tous à peu près le même format, ça avait été évoqué dans la table ronde précédente, des images, parfois une sélection de concept art, parfois des vidéos, mais plus rarement. J'utilisais principalement et je privilégie maintenant ces press kits-là quand j'en trouve. Vous, est-ce que vous avez cette pratique-là aussi et plus largement, quelles questions vous vous posez par rapport au visuel, puisque ça nous a occupé pas mal dans la préparation?
Alors, pour les visuels, ce qui est marrant, c'est qu'au début, on est tous un peu frileux. Hein, et puis on utilise des petits stratagèmes du genre un petit béret rouge, hein, pour pas prendre une image de Mario. Et puis au final, je pense que c'est pas la bonne technique. Parce que en fait, on essaie de pas citer le nom, on essaie de pas trop faire de vagues, on essaie d'être un peu discret, d'accord, comme si on faisait ça sous le manteau. Alors que je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense qu'il faut que ça sache. Il faut qu'on se montre pour qu'ensuite les choses évoluent.
Et donc on est toujours sur du faire pour que les choses bougent.
C'est exactement ça. C'est vrai que moi, là où j'étais la plus vigilante quand je m'occupais de Sergi Play, c'était sur la communication. Donc, quand on avait des intervenants extérieurs, c'était pratique parce qu'ils nous fournissaient eux-mêmes leur visuel. Donc là, on avait les droits. Et sinon, moi, je sais qu'on a rarement, voire pas du tout utilisé les press kits. Et je faisais souvent des alertes à mes collègues qui pouvaient me dire « Ah, bah là, des images de fond, enfin, il y a des fonds d'écran qui sont mis à disposition sur les sites. Est-ce que tu penses qu'on peut les utiliser pour la communication ?» Et j'étais là, ben, en fait, non, parce que c'est un fond d'écran. Enfin, c'est un support destiné à un fond d'écran. C'est noté, partout sur le site. Une affiche n'est pas un fond d'écran. Donc voilà. Donc même si on veut bien faire, en se disant voilà, on diffuse le jeu vidéo, voilà, on en fait la promotion. La question de la communication, voilà, elle est très très compliquée. Donc il vaut mieux utiliser, en tout cas à mon sens, des photos de personnes en train de jouer, alors de dos, comme ça vous êtes tranquille sur le droit à l'image. Mais voilà, après je sais qu'il y a quelques photos dans les bases de données payantes qui peuvent être utilisées, mais voilà, donc on est sur un paradoxe, parce qu'on voudrait utiliser ces images, ces logos pour promouvoir un jeu dans notre médiathèque, mais voilà, on est comme on cherche à être les plus dans les clous possible. Moi, je sais que je préfère ne pas les utiliser plutôt que de risquer quelque chose.
On ne rappellera jamais assez que ce n'est pas parce qu'une image est sur Internet qu'on a le droit de la réutiliser tout court. C'est et ça. À fortiori de la réutiliser n'importe comment.
C'est un post-it que j'ai sur mon bureau. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est gratuit.
Voilà, que c'est gratuit et que c'est réutilisable n'importe comment. Donc pour cette question ce qui est un petit peu drôle sur cette question des images, c'est qu'en fait on se rend compte que autant sur le jeu vidéo on a passé le stade de on sait mais on fait, et sur les images par contre on reste vraiment très très précautionneux. Oui. donc c'est assez paradoxal à noter, je trouve, mais je crois qu'on fait un peu tout ça, donc c'était plus une remarque qu'une question.
Non, mais c'est tout à fait ça.
Une dernière question sur l'événementiel. On n'a pas trop parlé parce que c'est pas forcément des pratiques que vous avez régulièrement ou que vous avez pu avoir tout court, des expositions autour du jeu vidéo. Excusez-moi. Comment on gère ça quand on veut faire ça a été aussi un petit peu évoqué dans la table ronde précédente, mais plutôt un événement de type, parce qu'une exposition ça peut recouvrir plein de choses, mais de type exposition de jeux vidéo.
Alors nous, ce qu'on faisait à Sergi, c'était des expositions de consoles rétro et on faisait appel à MO5, qui du coup nous, enfin voilà, on avait une offre clé en main et donc on passait par eux pour ça. Après, on n'a pas, je crois pas, mais après, comme ça fait 10 ans qu'on a fait Sergi Play, il y a eu beaucoup d'animations, mais je crois pas qu'on ait fait d'exposition au sens où on peut, enfin au sens classique du terme. Donc voilà, je saurais pas te dire, mais en tout cas sur les expos de consoles et les expos jouables, voilà, c'était par MO5.
Pareil pour nous, hein, on a fait plusieurs expositions, pareil, on passait par un prestataire, hein, David Bagel, qui chaque année nous préparait des belles expositions, notamment des expos qui faisaient le lien avec d'autres supports. Hein. Une belle expo qui nous avait montée, c'était une expo avec les influences de Lovecraft dans le jeu vidéo.
Merci beaucoup. Pour aborder la dernière partie de cette table ronde, on va parler un petit peu de ce que j'ai appelé pompeusement l'éthique de travail. Mais ça a été, en fait, on va reprendre des choses qu'on a déjà évoquées tout au long de cette table ronde, forcément. Avez-vous déjà tenté de contacter des éditeurs de jeux pour obtenir des autorisations ou des offres commerciales pour vos établissements? On en a parlé, la réponse est oui, mais l'autre réponse, c'est qu'aussi, on n'a pas forcément la réponse attendue, justement.
Exactement. Si jamais des gens dans la salle ou sur Facebook ont eu des réponses d'éditeurs, moi je suis preneuse, honnêtement, ça fait longtemps que je travaille dans les jeux vidéo en bibliothèque et c'est quelque chose que je n'ai jamais encore entendu. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi je considère que dès l'instant temps où on a fait notre, on a contacté l'éditeur, on a prévenu voilà notre hiérarchie, on a fait, on est dans les règles. On ne peut pas aller vers chaque éditeur pour demander, enfin voilà, pour réclamer une réponse, parce que de toute façon, comme ça a pu être dit dans la table ronde précédente, en fait, l'utilisation des jeux vidéo, c'est très à la marge, je pense, pour les grosses machines, enfin les grosses maisons, pardon. Ça n'a presque pas d'intérêt pour eux, et je pense qu'ils savent, alors après je ne perds pas le place, mais je pense qu'ils savent que voilà, on est aussi là pour aider à promouvoir leur jeu, et si voilà, le fait de prêter un jeu qui coûte 80€ en médiathèque suscite potentiellement l'achat de ce jeu par un usager qui a envie d'y jouer tout le temps chez lui, bah voilà, pour moi c'est donnant-donnant, donc voilà, mais c'est vrai que rarement on a de réponse.
Alors moi, j'ai pas contacté les éditeurs. Par contre, comme je te l'ai dit, j'ai fait toute une recherche avant l'ouverture du jeu vidéo. Et comme ma collègue, je connais personne qui a pu avoir une réponse claire et nette. Hein. Après, voilà, toutes les animations qu'on met en place, en tout cas à la médiathèque de Nancy, elles sont gratuites. Donc oui. Voilà, il y a aussi cette chose à prendre en compte, c'est que voilà, on gagne pas de l'argent en utilisant ces supports, en utilisant ces visuels, etc. Et d'une part, et d'autre part, on leur fait beaucoup de publicité.
Oui, mais justement, c'est parfaite transition avec ce que je voulais aborder après, parce que c'est ce que tu avais rappelé dans nos échanges aussi, et qui est effectivement une notion qui est importante pour nous, mais qui du coup aussi explique qu'on se permette certaines libertés. C'est que ce qu'on propose est gratuit, et ça c'est... C'est quelque chose qui est très important de rappeler, qu'il est très important de rappeler. Et d'ailleurs, tu disais que tu t'étais posé la question, parce qu'on parle justement, on a beaucoup dit, on promeut leur jeu, finalement, on leur fait un peu de la pub. Et tu m'as parlé notamment de cette question que tu t'étais posée par rapport aux sponsors quand tu as organisé des tournois de e-sport, parce que ça t'avait quand même posé des questions éthiques, tu dirais ça ?
Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, moi, le monde du e-sport, hein, quand on s'est lancé dans l'aventure, j'y connaissais pas grand-chose. Et l'un des premiers tournois qu'on a organisé, j'ai vu arriver des équipes, hein, des équipes, mais vraiment des équipes constituées qui venaient jouer et qui avaient voilà, t-shirt avec une marque de matériel, qui venaient avec leur clavier et leur souris. Et ça, c'est un truc auquel je m'y attendais pas, parce que donc à chaque fois, fallait démonter notre matériel et puis le brancher le leur. Et en effet, je me suis dit ah ouais, ils viennent tous avec leur marque sur leur t-shirt. Est-ce que ça a sa place en médiathèque ? Mais le domaine du e-sport, c'est ça.
Et ils ne t'avaient pas prévenu avant ? Parce que pour eux, c'est naturel, peut-être ? Enfin...
Oui, pour eux, c'est naturel. En fait, les inscriptions, elles étaient libres. Ils se sont inscrits. Donc, il était hors de question pour moi de les exclure ou de leur demander de mettre leur t-shirt à l'envers.
Oui, c'est ça. C'était des participants et pas des intervenants, en fait, qu'on aurait rémunérés pour une prestation. C'était des participants, donc ils sont venus avec, comme ils étaient, quoi, pour paraphraser.
C'est bien ça.
Est-ce que vous êtes plus méfiant ou plus précautionneux, on va dire, sur certains jeux ou avec certains éditeurs en particulier, parce que effectivement, peut-être que parfois on se dit tel jeu, c'est un petit jeu indé français, déjà peut-être qu'on va avoir plus de réponses si on leur écrit, alors pas forcément, mais peut-être qu'on se pose plus de questions, ou à l'inverse. Parce que l'idée n'est pas de dire faut piller les petits jeux indés, hein, pas du tout. Ou à l'inverse, est-ce que vous vous dites eux, c'est une très grosse maison d'édition, ils ont peut-être pas besoin plus d'argent que ça, donc finalement c'est pas très grave, on leur demande rien. Est-ce qu'au contraire vous vous dites oulala, eux on sait que potentiellement ça peut nous retomber dessus. Quel est votre rapport par rapport à ça ? Est-ce que vous avez en tout cas des précautions particulières, ou est-ce que vous permettez plus de choses avec certains jeux ? La question est ouverte.
Moi, je dirais que de base, il faut qu'on soit précautionneux dans tous les cas. Et, Et puis voilà, se couvrir de la meilleure manière possible. Après, si vous regardez un petit peu ce qui, enfin les retours qu'on peut avoir sur les droits sur les jeux vidéo, l'éditeur qui commence par N et qui finit par O, hein, comme ça, voilà, c'est dit un peu partout. On sait, bah, comme ils ont une des licences qui marche le mieux en médiathèque. Ils vont peut-être, du coup, s'ils ont beaucoup d'occurrences voilà, du net qui disent « Ah ben tiens, ça a été utilisé en médiathèque, ça a été utilisé en médiathèque. » Voilà, peut-être qu'on peut se dire que la force du nombre va faire qu'ils vont s'y intéresser sans forcément voilà, dire que voilà, qu'ils vont interdire. Mais voilà, on sait que, en tout cas, moi je sais qu'on était très précautionneux avec eux. Mais en même temps, on a invité pendant plusieurs années une joueuse pro du jeu en question.
Le jeu où on danse.
Le jeu où on danse, voilà. Exactement.
Alors moi, je partage pas complètement cet avis-là. Pourquoi prendre plus de précautions avec un éditeur qu'un autre ? Moi, je pense que il faut sortir de, voilà, comme je vous ai dit, de toutes ces actions qu'on fait sous le manteau. Il faut que ça se sache, et puis comme ça, les choses changeront. Mais moi, je suis plutôt optimiste, hein, et comme je vous ai dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, on voit avec Ubisoft, hein, qui propose déjà une sélection gratuite pour les médiathèques.
Mais tu disais quand même tout à l'heure que, par exemple, on repart sur la question des visuels, mais que tu avais utilisé un petit bonnet rouge pour évoquer un certain personnage et pas directement l'image. Donc, peut-être plus sur les visuels, du coup, être précautionneux, mais du coup, pas forcément sur tel ou tel éditeur. Là, c'est vraiment général.
Alors, c'est vrai qu'au début... Au début, on y va doucement et puis on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Mais maintenant, en fait, ça a pris une telle ampleur. Hein. Le jeu vidéo en médiathèque, maintenant, il se généralise en France. Et je pense qu'il faut arrêter d'essayer de faire ça sous le manteau.
Moi, voilà. Je suis assez d'accord. Ce qui nous manque et ce qui, je pense, c'est aussi l'objet de cette table ronde, c'est de se dire bon bah voilà, on reconnaît que il y a pas de base légale, mais on le fait quand même. On fait attention, peut-être un peu trop, mais les questions qu'on va se poser sur le jeu vidéo, par exemple, on se les pose plus sur le CD. Donc voilà, je vais essayer de partager l'optimisme de mon collègue en se disant que voilà, à un moment, ça va finir par se faire et peut-être que les bibliothécaires seront moins frileux dans tout ça. Moi, je sais qu'on sur la programmation, sur les jeux qu'on voulait mettre en avant sur l'événementiel ou même qu'on met en avant dans nos équipements, on s'est jamais mis de limite par rapport à un éditeur ou un autre. C'était vraiment là sur la communication. Où là, aussi parce que je pense que on est peut-être plus quand on fait nos programmes de communication, on est plus en lien avec d'autres services. Par exemple, bah voilà, le service com de la ville, le service juridique. Et donc peut-être que cette alerte que ces services-là nous font, ces services support nous font, on se dit ben tiens, est-ce qu'il faut qu'on ait ce même niveau d'alerte sur notre programmation ? Et je pense que non, mais que on a envie de faire les choses bien. En fait, on a dit voilà qu'on promouvait justement les jeux vidéo. Ben, on a envie de faire les choses correctement jusqu'au bout. Mais voilà, après, si comme on n'a pas d'organisme de droit, enfin qui reverse les droits aux auteurs de jeux vidéo, on a aussi ce problème-là. Donc c'est donc voilà. Donc en fait, on a le syndrome des bons élèves, ce qui est très bien.
Bord de la fin de cette table ronde, quelqu'un dans le chat Facebook nous dit « J'ai eu une fois la réponse pour un jeu Inculinati, que je connais bien puisqu'on l'a proposé aussi dans le cadre de Prestart l'année dernière, pour avoir accès à la démo du jeu, pas encore sortie, c'est ce qu'on avait eu aussi nous aussi, pour une animation pour les JEP. » Et effectivement, nous aussi l'année dernière, en plus d'Inculinati, on avait eu un partenariat avec un éditeur de jeux polonais. C'était Inculinati, qu'est-ce que je raconte, c'était eux. Donc c'était la boucle est bouclée. Et donc la dernière.
Vous avez eu des restrictions?
Non, en fait, on les avait contactés parce qu'on avait repéré le jeu et ils nous ont ouvert un droit d'accès à la démo sur toute la semaine du festival, je crois. Voilà, et donc non, ils étaient très contents. On a vu de la com partagée et tout ça. Donc c'était assez chouette. Donc ça se fait. C'est une petite boîte indépendante, mais du coup, on était ravis. Je crois qu'ils étaient contents aussi. Et l'année dernière, on avait aussi mis en avant le jeu Alpaca Ball. C'est à ça que je pensais. Et pareil, là, on avait réussi à avoir le contact, il nous avait répondu. Je ne me souviens plus du nom, mea culpa, de l'éditeur. Et il nous avait dit, mais tout à fait, faites-le. À la base, il voulait même nous envoyer des petits goodies, mais finalement, on n'a pas pu monter les tournois. Mais ils étaient tout à fait partants et d'accord. Et voilà. Donc, c'est possible,
c'est
parfois. Il ne faut pas renoncer à essayer. Dernière question, et puis on va passer aux questions du chat et de la salle. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes, en fait, tout simplement ? Est-ce que vous êtes déjà fait retoquer par, les éditeurs qui auraient pu, enfin, les éditeurs ou autres, qui pourraient vous dire, hop, vous avez fait ça, mais en fait, nous, on n'a pas donné notre autorisation pour que vous fassiez ça. Est-ce que c'est déjà arrivé à votre connaissance, à vous ou à des collègues ?
Alors, moi, non. Mais du coup, je lisais dans le chat que voilà, il y a eu la médiathèque de Roubaix qui s'est fait retoquer par rapport au jeu de danse dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, c'est le seul exemple que je connais aussi.
Voilà, c'est un des rares exemples que je connais.
Excuse-moi, je te coupe. Il s'était fait retoquer plutôt sur la SACEM, non ?
Sur la SACEM.
Ouais, c'est ça.
C'est
donc
ça.
C'était pas sur l'utilisation du jeu vidéo. C'était, pardon, peut-être ouais.
Non, c'est exactement
ta réponse.
C'est exactement ça. C'est que voilà, c'est la SACEM qui était intervenue. Donc j'ai pas plus de précision que ça. Faudrait creuser un petit peu la question. Mais voilà, je ne sais pas si c'était par rapport à la programmation du jeu de danse.
Pour moi, c'était diffusion
de musique.
Moi, je pense que
c'est la diffusion de la musique.
Clairement.
On est d'accord. Donc, c'est un entre-deux. Mais voilà, si on a des collègues de Roubaix, n'hésitez pas à nous donner des détails, si c'est possible.
Alors moi, j'ai jamais eu de problème non plus. Et le seul exemple, c'est celui-là avec la SACEM, qui n'est pas directement lié au jeu, en fait. Et ouais, pour en revenir, je pense qu'il ne faut pas être trop frileux. Et si on n'ose pas, on n'aurait jamais organisé, on n'aurait jamais fait rentrer des jeux vidéo à l'Opéra de Nancy.
C'est une belle conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, j'ai des questions déjà de Facebook, mais il y en aura aussi dans la salle. On prend d'abord une question de la salle, vu qu'on a déjà pris plusieurs questions Facebook. Alors, je ne garantis pas qu'on puisse répondre à tout, nous ne sommes pas juristes ni les uns ni les autres.
On a beaucoup parlé de ce qu'on a le droit ou pas de faire, mais on n'a pas parlé d'organismes de contrôle. Est-ce qu'il y a un organisme qui contrôle, par exemple pour la musique, il y a la SACEM et tout, mais est-ce qu'il y a un organisme dédié au contrôle de l'utilisation des jeux vidéo?
Alors pour moi, la SACEM est moins, mes collègues de la musique sont dans la salle, je les vois, donc ils me corrigeront. Pour moi, la SACEM est moins un organisme de contrôle que de perception de droit. Et donc c'est justement ça qui nous manque pour. Alors bien sûr, il y a un rôle aussi de contrôle, hein, mais c'est comme la SOFIA pour les livres, les auteurs. C'est des organismes sur de la perception de droit et qui donc effectivement font des rappels. Mais effectivement, c'est ce qui nous manque pour le jeu vidéo. Hein, c'est bien tout
c'est
le problème.
Ça. C'est exactement ça.
À ma connaissance, il n'y en a aucun.
Bonjour, moi c'est pas vraiment une question, mais c'est aussi pour rajouter un exemple d'éditeur, enfin là pour le coup c'est même développeur qui a répondu à une demande de contact.
Allez-y, il faut donner l'exemple.
C'est Zachtronix, qui est spécialisé dans des jeux de puzzle, serious game, donc pas exactement, mais en tout cas pas à but éducatif, mais avec des aspects éducatifs, et qui peut, eux pour le coup, ont même une plateforme qui s'appelle Zachtronix at School, qui propose, et qui je leur ai demandé, donc en bibliothèque ça marche, qui propose des versions de leur jeu pour les organismes publics.
Écoutez, je pense que nos collègues sur Facebook seront très intéressés, donc si vous avez l'occasion de leur mettre en commentaire, ou sinon nous donner l'orthographe exacte pour qu'on ne fasse pas de coquilles, et nous on transmettra. Merci beaucoup.
Le seul petit risque, c'est qu'ils sont en train de pas forcément de fermer, mais en tout cas d'arrêter leur activité. Donc...
Eh bien, ce n'est pas grave, on le notera quand même et on se souviendra d'eux. Les collègues, apparemment, sur Facebook nous disent qu'effectivement, pour Roubaix, c'était bien la SACEM.
Ouais, voilà.
Un autre exemple, les collègues donnent des exemples, c'est super, merci beaucoup, sur Facebook. Donc en 2014, Ubisoft nous a, alors je ne sais pas quel, d'où est le collègue en question ou la collègue, en 2014, Ubisoft nous avait offert 8 licences PC de soldats inconnus pour une soirée jeux vidéo. Effectivement, c'est d'ailleurs dans leur offre pédagogique qu'ils proposent là cette année, qu'ils sont en train de monter. Une question, je prends une question du chat. Est-ce qu'il faut considérer le code PEGI des jeux comme cadre légal et vérifier l'âge des joueuses et des joueurs ou comme simple recommandation?
Alors, nous à la médiathèque, ouais, on tient compte de PEGI. Et donc, en fait, on a deux grandes catégories de jeux. Le jeu tout public, qui est empruntable par tout le monde, dans lequel on a mis le PEGI 3, 7, 12. Et on a mis à part les PEGI 16 et 18, qui pour les emprunter, il faut avoir l'âge requis.
Ouais, je crois que à Sergion, on est sur les mêmes, à peu près les mêmes choses. Donc, on est sur voilà les restrictions plus 14, moins de 14. Et je sais qu'on faisait attention dans les jeux qu'on proposait dans les espaces jeux vidéo, voilà où n'importe quel public voilà pouvait passer. Je crois qu'on était sur 3-7 maximum et pas de PEGI 16-18. Et quand on faisait les soirées Sergi Play, on veillait à proposer des jeux PEGI 18 parce que c'est quand même aussi une attente, mais dans un espace qui était voilà pas dans le passage. Donc on se prémunissait de... Oh. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais bon, voilà. On essayait de limiter au maximum que des petits puissent passer devant quelqu'un qui joue à un gros PEGI 18
qui tâche.
Voilà.
Pareil, pour la consultation sur place, on ne dépasse pas le PEGI 12 pour les box. Par contre, les PC gamers, on n'a pas de limite, sachant que c'est réservé aux adultes.
Et du coup, pour répondre à la question, savoir si c'est légal, enfin si on s'appuie sur ça comme un cadre légal. Alors, le PEGI, c'est une recommandation. Donc voilà, moi je sais qu'on l'utilise tel quel, mais comme on n'a pas, on peut pas s'appuyer légalement dessus. Voilà, mais on ne peut pas, en tout cas à mon sens, faire abstraction du PEGI, puisque c'est quand même ce qui est le plus connu, voilà, même par les parents, par voilà ceux qui peuvent donner accès au jeu. Donc voilà, c'est un peu un des seuls éléments qui nous permet voilà, de s'appuyer sur quelque chose de concret.
Moi, j'ajouterais qu'on s'oblige à la recommandation, mais pour avoir eu l'année dernière un exemple très concret, donc le thème de Prestart était animaux et jeux vidéo, enfin les bestiaires du jeu vidéo, et donc on avait une sélection qui était plutôt enfant compatible dans le salon, ce qui n'est pas toujours le cas suivant les éditions. Et un des rares, si ce n'est le seul, PEGI 16 qu'on avait dans la sélection, était un jeu dont je ne me souviens plus du nom, vous m'excuserez, mais qui avait un gros ours en peluche, mais qui tronçonnait les gens à la tronçonneuse. Et bien sûr, c'est le jeu qui attirait le plus les enfants, puisqu'ils voyaient d'abord l'ours. Nous étions partis du principe que nous étions là pour donner l'information, qui était visible aussi sur des petits cartels. Et de toute façon, il y avait des médiateurs qui étaient là pour accompagner, puisque sur Prestart, on sait qu'on a des enfants, ce qui n'est pas le cas en général dans la bibliothèque. En tout cas, les enfants, dans tous les cas, doivent être accompagnés. Et donc, les parents étaient là, on a donné l'information, ils ont estimé que c'était pas grave que leur enfant de 6 ans joue à un PEGI 16 d'ours qui tronçonne ses petits camarades. Ce n'était pas notre responsabilité, puisque ce sont eux les tuteurs légaux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, j'en ai d'autres dans le chat. J'en ai beaucoup dans le chat, on les prendra
Bonjour.
Pas toutes malheureusement. Mais...
J'aurais une question par rapport au support que vous proposez au prêt, puisque l'offre de jeux vidéo est fragmentée sur plein de consoles différentes. Quels ont été les facteurs qui ont influencé votre décision pour savoir quelle offre proposer au prêt? Est-ce que vous avez un panel de différentes consoles qui sont disponibles ou est-ce que vous êtes concentré sur... une offre spécifique?
Non, c'est un panel de consoles et un panel de jeux. Voilà, on essaye de couvrir le plus de thèmes, enfin de sortes de jeux, pardon, possibles. Et voilà, donc on fait avec ce qui est disponible, soit chez notre fournisseur, en veillant à avoir une représentation de jeux hyper mignons. Enfin, je caricature, hein, c'est pas des jeux hyper mignons, mais voilà, on a du Animal Crossing comme on peut avoir du FIFA ou du journée. Enfin voilà, on essaie de couvrir le plus possible, toujours dans l'idée de faire de la médiation de jeux qui sont pas, des jeux qui soient les plus différents possibles.
Pareil, on a une offre très 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 vaste, hein, qui représente un petit peu tout ce qui se fait dans l'industrie du jeu vidéo. À la seule exception des PC gamers, on ne prête pas de jeux sur les PC gamers parce que en effet, de plus en plus, ces jeux sont accessibles par téléchargement.
Alors nous, on ne fait pas de prêt, mais ça rejoint effectivement ce que vous disiez tous les deux, hein, Marc, chargé de collection jeux vidéo. Il fait en sorte qu'on propose à la fois du blockbuster qui fait plaisir, puisqu'on est aussi là pour faire plaisir et pas être les gros snobs du jeu vidéo qui ne font découvrir que des jeux vidéo Télérama. mais du coup, aussi les blockbusters, donc du FIFA, mais pas que, parce qu'on sait que sinon nos usagers... Ils jouent qu'à FIFA toute la journée et c'est pas grave, mais nous on est là aussi pour être prescripteurs, c'est le terme qui me rappelle tout le temps. Oui. Je sais pas si nous argent dans la salle, je le vois pas, je crois qu'il est pas là, mais voilà, il me rappelle tout le temps qu'on est prescripteurs, qu'on n'est pas maître du bon goût, mais qu'on est là pour faire découvrir. Donc on essaye d'avoir une offre diversifiée. Question dans le chat, les marchés publics, on a plutôt évoqué déjà tout à l'heure, donc je pense que on a répondu à la question. Concernant l'utilisation des programmes d'abonnement offrant le téléchargement et le stockage des jeux, comme le PS Plus chez Sony ou le Game Pass chez Microsoft, y a-t-il un flou juridique également ?
Sur les consoles, nous on n'utilise pas, on utilise uniquement les supports sur galette, on n'utilise pas le PS Plus pour l'instant en tout cas.
Alors. Je sais qu'on a acheté à un moment des cartes pour utiliser sur le PS Plus et voilà. Après, je pense que c'était plutôt dans l'idée de voir ce qu'on pouvait proposer, mais faudrait que je revérifie. Mais en tout cas, c'est pas des jeux qu'on va prêter. Si on utilise ces jeux-là, c'est de la consultation sur place, puisque de toute façon, on n'a pas le support matériel pour prêter, parce qu'on ne prête pas de console. Il faudrait vérifier peut-être avec des médiathèques qui prêtent des consoles, savoir quelle offre de jeux elles proposent. Enfin voilà, si je sais pas, c'est un pack console plus 4 ou 5 jeux qui sont en galette ou pas. Mais voilà, en tout cas, ça permet aussi, en tout cas sur les offres en démat, d'avoir accès à des jeux qui peuvent être un peu anciens, qu'on va pas retrouver en magasin. Mais voilà, donc c'est un peu aussi. Voilà, en tout cas, je sais que ça passait.
Alors oui, moi je dirais que ça pose surtout des questions techniques, puisque je vois pas pourquoi il y aurait plus un flou juridique sur ça que sur le reste des jeux vidéo en fait. Hein. Donc après, peut-être quand le jour où il y aura une législation, ça posera certainement, peut-être en fait, j'en sais rien, mais des questions particulières. Ouais. Mais en tout cas, pour nous, ça change rien à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Hein. Autre question intéressante, alors qui parle pas du droit, mais que je trouve intéressante dans le chat. Comment envisagez-vous le renouvellement du matériel, console et on-gaming, vite obsolète, dans le contexte, de la sobriété numérique et du développement durable ? Vous avez le droit de dire que vous n'y avez pas encore réfléchi. Voilà.
Eh bien, écoute, moi, je vais... Alors pour le coup, comme je ne m'occupe plus des jeux vidéo là où je suis, je ne sais pas si mes collègues y ont réfléchi. Je pense que c'est une question, effectivement, qui est importante et à laquelle il faut s'intéresser, puisqu'on connaît bien l'obsolescence des consoles. Et pour avoir eu des consoles un peu vieillissantes, clairement, la question se pose. Mais là, comme ça, j'ai pas de...
Et bien, le temps que Karim réfléchisse, à moins que tu aies déjà...
Oui, après, il faut savoir qu'on n'a pas des nouvelles consoles tous les ans. En général, une console, elle a une durée de vie au moins de 5-6 ans, d'une part. Et d'autre part...
5-6 ans, c'est beaucoup. Ouais. Enfin, si elles tournent beaucoup. Les nôtres tournent tellement qu'elles ont une durée de vie de moindre.
Ouais. D'accord. Et puis actuellement, j'ai envie de dire, pour renouveler le parc, c'est un peu difficile. Hein. Je ne sais pas si vous avez réussi à avoir une PS5, oui. Mais nous, on attend toujours.
Oui, oui, oui. Le jour de la matinée d'études l'année dernière, on avait annoncé, elle arrivait bientôt, elle venait d'arriver, et ça y est, on l'a. Par contre, Xbox Series, toujours pas.
Non, on n'en a pas. Non.
Alors nous, on en a une. Et nous, on s'est posé la question justement cette année, plutôt que de racheter, parce que donc, nous, notre salon jeux vidéo, il est ouvert sur toute l'amplitude horaire de la bibliothèque, c'est-à-dire tous les jours, sauf le mardi, de midi à 22h et 10h-22h le week-end, ce qui fait beaucoup pour une console, surtout dans un environnement fermé, alors bien sûr avec des grilles d'aération, mais... Il n'y a pas de mobilier encore, on pourrait peut-être parler du mobilier une autre fois, mais qui est vraiment adapté aux jeux vidéo en bibliothèque. Donc on fait avec ce qu'on trouve de mieux, et donc ça chauffe beaucoup. Et on s'était posé la question, vu que notre fournisseur de jeux proposait aussi des réparations, de peut-être plutôt que de racheter perpétuellement, essayer de les faire réparer. Parce que donc Marc, mon chargé de collection, répare un peu les consoles quand il peut, mais il y a des pannes qu'on ne peut pas réparer ou qu'on ne connaît pas. Et donc, on s'était posé la question de les faire réparer plutôt. Et en fait, notre fournisseur de jeux nous a dit justement tout récemment, hier, qu'ils avaient arrêté de le faire parce qu'en fait, ça ne tenait pas. Bon, déjà, il y a les questions. Bon, là, nous, c'est différent, mais pour les particuliers, j'imagine qu'ils avaient aussi des questions de garantie, hein, parce que, après, une fois qu'on fait réparer sa console, on n'est plus, par quelqu'un d'autre que le vendeur, on n'est plus sous les garanties. Donc, voilà, et qu'en fait, eux-mêmes s'étaient rendu compte que ça tenait pas, ils n'étaient pas capables d'assurer que ça allait vraiment tenir dans le temps, les réparations, et que donc ils ne proposaient plus service. Et donc, bah, pour l'instant, on en est toujours à se dire qu'on va les racheter. Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ?
Émilie ?
Oui.
Il y a une remarque d'Élodie Bertrand sur la question précédente, en fait, sur PS Plus et Game Pass.
Ah. Oui, merci, pardon.
Moi, je t'en prie.
Désolée de faire ma rabat-joie.
Fais-le.
Ce que je voulais dire. Alors, j'ai pas regardé très récemment, mais nous, on s'était posé la question aussi, donc pour nos espaces tout publics, donc même pas pour le prêt, mais pour la mise à disposition d'un bibliothèque. Et en fait, dans la CGU, dans les CGU, aussi bien côté PlayStation que Microsoft et Nintendo aussi, si mes souvenirs sont bons, il y avait écrit explicitement que c'était un usage personnel, ce qui veut dire que c'est même pas possible, en principe, en bibliothèque pour ces abonnements en ligne. La seule possibilité qu'on avait vue, c'était côté App Store pour les tablettes, où là, il n'y avait pas les mêmes limitations. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils nous avaient fait annoncer à le proposer.
Ouais, bah c'est ce qu'on disait, hein, c'est voilà, que clairement c'est pas prévu dans les usages, hein. C'est même, comme tu rappelles, explicitement interdit de sortir du cadre privé. Sur un même sujet que les marchés publics qu'on a évoqué tout à l'heure, comment se fait l'achat de jeux vidéo pour vous, hein, parce qu'on va peut-être pas répondre pour tous les collègues, il y a peut-être des collègues qui pratiquent différemment, comment se fait l'achat de jeux vidéo, y a-t-il une plateforme type ADAV pour les vidéos?
Alors, bah, tout dépend comment l'achat de jeux vidéo a été se fait chez vous. Je sais que moi, j'ai eu connu les deux avec donc un fournisseur avec des droits. Donc là, on avait notre catalogue, on faisait la commande. Après, on négociait en disant non, mais celui-là, il le faut absolument. Et puis celui-là, non. Enfin, voilà, ça prenait beaucoup de temps, comme pour une commande classique en bibliothèque. Et on était livré par le fournisseur. Et là, pour là où je suis actuellement, si je me trompe pas, mes collègues se disent ben voilà, il faudrait acheter on a tel budget, où est-ce qu'on en est dans notre fonds, et ils vont sur place. Je pense qu'il y a moins de préparation dans les titres quand on peut aller en magasin, parce que je sais que mes collègues sont très friands des retours des vendeurs du magasin, parce que ils sont aussi très très au contact du public qui ne vient pas forcément en médiathèque mais qui joue aux jeux vidéo, et donc là on est plus sur de la recommandation. Donc c'est aussi je trouve un avantage de pouvoir aller discuter avec les vendeurs directement dans les magasins, parce que préparer sa commande toute seule sur son ordi, c'est pas le plus marrant.
Donc pareil, Enfin, je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, donc les gros fournisseurs type ADAV, etc., qui soi-disant proposent des droits, et ben, le calendrier est très pauvre.
Le catalogue,
excusez-moi, est très pauvre, d'une part. Ensuite, après, ça dépend du budget, hein, pour si on doit passer par marché ou pas. Pour l'instant, d'après les chiffres que j'ai vus, les budgets ne sont pas énormes dans les médiathèques en France. Donc du coup, ça nous permet de passer hors budget, hors marché. Et du coup, comme pour n'importe quel achat en médiathèque, eh ben, on fait trois devis chez trois fournisseurs différents. Et puis voilà.
Et est-ce que vous achetez des jeux d'occasion? Parce que nous, on en achète, par exemple, auprès de nos fournisseurs. Enfin, on pratique comme vous, hein, on va chez un marchand. Et du coup, on a des recommandations et c'est chouette. Mais on achète aussi des jeux d'occasion.
Alors, vous ne crois pas, mais voilà, c'est à vérifier. En tout cas, à Cergy, du coup, comme c'était avec le fournisseur, on n'avait pas de jeu d'occasion, mais je poserai la question à mes collègues, je mettrai un commentaire sur la page après, mais je ne crois pas.
Nous, on prend que du neuf. Pourquoi? Parce que de l'occasion, donc ça a déjà été utilisé, ça c'est déjà un petit peu usé, et vu qu'il y a un grand beaucoup de prêts sur ce support, j'ai peur que finalement on ne s'y retrouve pas, parce que au final il sera beaucoup moins emprunté qu'un CD neuf.
Oui, alors que nous c'est l'inverse, les consoles tournent beaucoup mais les jeux moins, puisqu'on ne pratique pas le prêt et qu'on est en sélection thématisée, donc forcément. Et j'y pensais parce qu'il y avait aussi une question dans le chat sur les points fidélité et les jeux en promo dans les e-shops, donc je vous la lis intégralement. Est-ce que l'achat de jeux en version dématérialisée grâce aux points de fidélité sur Switch est valable dans les médiathèques? Peut-on acheter sans risque les jeux en promo dans les e-shops? Est-ce que vous l'avez déjà fait?
Alors, ça rejoint un peu ce que disait Elodie tout à l'heure. Enfin voilà, je pense qu'on devrait pas le faire parce que du coup l'utilisation est limitée. Mais je pense en tout cas, je pense que ça s'est déjà fait. Mais du coup, c'est vrai que on pouvait. En tout cas, je l'ai vu dans. Alors, je ne sais plus dans quelle structure. Mais je sais que les codes promo qui étaient physiques dans les boîtes de jeux, on pouvait les mettre en lot de pour les tournois. Je crois que j'avais vu ça. Alors vraiment, faudrait que je retrouve. Mais donc c'était un peu on contournait. Je réponds pas exactement à la question, mais voilà, je pense qu'on peut les acheter si après on les met pas en consultation, on reste dans l'utilisation dont Elodie tu parlais tout à l'heure.
De toute façon, on a dit qu'on répondrait pas forcément à toutes les questions, parce que nous-mêmes, on est en interrogation et certainement qu'on va se poser de nouvelles questions après
tout
cette table ronde, clairement.
Non, mais après, je pense que oui, on peut, à condition de ne pas les mettre en diffusion au public et de ne pas les prêter. Dans ce cas-là, on ferme l'espace de vidéo et puis on joue entre nous.
Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Sinon, je prends peut-être une dernière question Facebook avant qu'on termine cette matinée d'études. Oui, monsieur là-bas.
Oui, bonjour, Éloi Baratini. Je viens de Martinique, hein, donc très heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous. Alors, j'ai très bien connu l'espace à Nancy. Je crois que j'ai visité il y a 4-5 ans. Je trouve que c'est un espace extraordinaire. Et puis, tout cela pour dire que j'ai eu l'occasion de visiter aussi des espaces de jeu intégrés dans des écoles de commerce, notamment le M Lyon, que je trouve génial. Et en fait, par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, je crois que vous avez les uns et les autres à apporter des réponses. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire sur le droit d'utiliser ou non les jeux en bibliothèque, mais en fait, la démarche, elle est la bonne. Informer et puis faire. De toute façon, je pense que ce serait une démarche contre-productive des fournisseurs de jeux d'interdire, puisque en quelque part, je crois que ça a été dit, le fait que les jeux soient utilisés en bibliothèque, ça crée tout un écosystème pour les jeunes qui effectivement n'ont peut-être pas d'opportunité de se rencontrer, que c'est aussi dans le rôle, les bibliothèques ont un rôle social extrêmement important à ce niveau-là, et ça leur permet, lorsqu'ils rentrent chez eux éventuellement, d'acheter des jeux, parce qu'en quelque part on sert d'organe de publicité, en fait, je peux m'expliquer ainsi, donc pour ces fournisseurs de jeux. Et moi je crois que le fait que les bibliothèques enclenchent le pas, c'est vraiment une très bonne chose, parce que cela permet effectivement à des jeunes qui effectivement n'auraient peut-être pas eu l'occasion de se rencontrer ou d'échanger, ou de se croiser, de partager quelque chose ensemble. Et c'est vrai que on est, les bibliothèques en quelque part anticipent sur ce lien social qui se crée dans les villes, dans les sociétés, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors pour nous, on a très rapidement, en tout cas en Lamantin, en Martinique, enclenché le pas, nous sommes en train de créer donc des espaces, et c'est vrai qu'on se dirige aussi, on souhaite se diriger vers l'e-sport, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a toute une communauté de jeunes qui effectivement jouent entre eux, chez eux, et en fait il manque pour l'instant cet espace d'échange et puis ces espèces donc de grands concours qui permettront aux jeunes donc de s'intéresser à quelque chose et puis de partager leur passion avec d'autres. Et puis peut-être on envisage éventuellement de créer des équipes, comme vous disiez tout à l'heure, et je pense que ça créera des émulations plus tard. Alors sur la question des droits, je pense que pour l'instant c'est le vide total, et je ne pense pas que ça évoluera dans un sens négatif, dans la mesure où finalement, comme je disais tout à l'heure, ça risquerait d'être contre-productif pour les fournisseurs de jeux, et bien évidemment je crois que c'est quelque chose d'intéressant pour l'instant des publics aussi.
De l'optimisme.
Oui, de l'optimisme. Après, enfin, pour être très clair, on ne devrait pas. Enfin, voilà, on n'a pas forcément. On prend le droit par rapport aux jeux vidéo en bibliothèque, et c'est tant mieux. Ça conclut ce qu'on dit qu'il faut faire, et puis voir ce qui se passe après. Et du coup, j'ai perdu. J'avais un autre élément de réponse, mais c'est c'est parti, bon, c'est pas grave. Vas-y, Karim.
Moi, je rebondis juste sur ce que dit monsieur. En effet, il a abordé un aspect vachement important avec ces espaces, c'est les interactions entre les générations. Nous, notre objectif, c'était toucher un public qu'on ne touche pas en médiathèque, les adolescents. Et là, cerise sur le gâteau, on a touché même des plus jeunes qui venaient avec des grands-parents. Et là, on avait vraiment un échange qu'on n'a nulle part dans d'autres secteurs, on va dire, où là vraiment on a un échange entre les grands-parents, les parents et les enfants, et tout ce monde-là s'amuse ensemble.
Ouais, t'as raison, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé du rôle social que la bibliothèque peut avoir, et particulièrement ce que le jeu vidéo peut faire et peut créer justement avec des moments de partage de jeux et de jeux ensemble. Mais voilà, c'est aussi une des choses qui fait qu'on a envie de proposer du jeu vidéo en bibliothèque, c'est qu'on sait que pour certains publics, le jeu vidéo va permettre de recréer des liens, ou même d'en créer tout court, et c'est ça qui nous donne envie de le faire, et c'est pour ça qu'on s'autorise à proposer du jeu vidéo en bibliothèque, parce que voilà, c'est aussi notre rôle de favoriser tous ces liens.
Et toute dernière question avant qu'on conclue. Quid du prêt de jeux vidéo et consoles par les bibliothèques territoriales à des associations avec qui on travaille, notamment avec des ados? Est-ce que vous l'avez déjà fait?
Non, moi de mon côté, pas fait.
Karim, je crois que la question est-ce que vous avez déjà prêté des jeux vidéo ou des consoles à des associations avec qui vous auriez l'habitude de travailler?
Alors non, on n'a pas fait de prêt de jeux ou de consoles à des associations. Par contre, les jeux qui ne sont plus qui vieillissent, qu'on désherbe, on en fait don à des associations.
Eh ben, on va conclure sur ça. En tout cas, la question a été posée dans le chat, donc peut-être que d'autres collègues répondront sur leur pratique. N'hésitez pas à continuer à discuter. Moi, je vais remercier mes deux intervenants. Je vais vous remercier pour votre écoute. Press Start continue donc jusqu'à lundi avec toute une série d'événements. Donc cet après-midi, notre partenariat habituel avec l'école de l'image des Gobelins qui vient de nous présenter 10 de ses meilleurs jeux étudiants dans une après-midi qu'on appelle Graines de Studio. Et ce soir, donc Random Bazar, qu'on a évoqué tout à l'heure, nous fait une conférence interactive jazz et jeux vidéo. Et demain, notre grand forum du jeu vidéo, un concert. Je vous invite à retrouver tout notre programme jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.